classique.
Heures, 9 heures, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
La majesté du Belém en Méditerranée, la flamme olympique à son bord. Le mythique trois-mâts quitte le port d'Athènes demain pour rejoindre Marseille le 8 mai. Passable, médiocre ou peut mieux faire, la France attend fébrilement la décision des agences Moody's et Fitch d'abaisser ou non sa note. Joe Biden doit-il craindre les manifestations étudiantes en soutien à Gaza? Elles se généralisent sur les campus américains et pourraient avoir une influence sur l'élection présidentielle.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, qui a très attentivement écouté le président hier à la Sorbonne sur l'Europe, suivi de l'invité de la matinale, le politologue Pascal Perrino, qui nous dira si Emmanuel Macron est entré en campagne pour les européennes ou s'il s'est adressé à ses homologues européens. La flamme olympique quitte la Grèce pour la France.
Une croisière en Méditerranée avant de rejoindre Marseille. La flamme va embarquer sur le mythique Belém, l'un des plus anciens trois-mâts d'Europe. Départ du port d'Athènes demain pour une traversée de 11 jours sans escale, Servane de Pastre.
À la veille du départ, c'est l'excitation qui règne sur le pont du Belém, mais aussi un peu d'appréhension. Émeric Gibet est le capitaine du bateau.
C'est un peu les montagnes russes en ce moment. C'est pas plus difficile qu'une autre fois techniquement, mais ce rendez-vous qu'on ne peut pas louper à Marseille, et puis on transporte une flamme qui ne doit pas s'éteindre, ça fait quand même pas mal d'enjeux.
12 jours de traversée sans escale qui mèneront la flamme et les 40 passagers du Belém au large des îles grecques et des côtes italiennes. Thomas Tacnet a 20 ans, il fait partie des jeunes sélectionnés pour accompagner la flamme.
C'est une revanche parce que j'ai réussi à m'en sortir. J'étais maltraité quand j'étais petit, j'étais frappé à l'école et insulté tous les jours. Ça symbolise aussi ça pour moi, la flamme. Ne jamais baisser les bras.
Cette flamme sera bien protégée. Christelle Delarose fait partie du voyage. Elle est déléguée générale de la Fondation Belém.
On ne va pas prendre le risque de l'incendie. Donc, elle sera dans une lanterne, style une petite lanterne de mineur. Nous la logerons dans le grand salon, tout en acajou de Cubac, absolument magnifique. Mais on imagine la déplacer un petit peu partout dans le bateau.
Elle pourrait même se retrouver en haut d'un mât. L'objectif maintenant, mener cette flamme à bon port à Marseille le 8 mai prochain.
Moins romantique qu'une traversée de la Méditerranée à bord du Belém, le dispositif de sécurité autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, 26 avril, 26 juillet, en est à 3 mois pile de l'événement. Et la préfecture de police a dévoilé son dispositif antiterroriste. Le périmètre de protection va progressivement se mettre en place autour de la Seine à partir du 17 juin.
La France est menacée de dégradation par les agences de notation.
On est presque aussi fébrile qu'un élève de terminale qui attend les résultats du bac. Les agences Moody's et Fitch vont annoncer ce soir si elles abaissent ou pas la note de la France. La faute à la détérioration des comptes publics. Alors pour être clair, les deux agences vont donner une note comme AA ou A et une perspective positive, stable ou négative. Alors est-ce que c'est grave? Norbert Gaillard est économiste, auteur du livre Les agences de notation. Il reste optimiste pour la France.
Je pense qu'il faut quand même dédramatiser la situation. La note française est de 17 sur 20 côté Fitch, de 18 sur 20 côté Moody's. Vraisemblablement, il y a peu de risques d'avoir une dégradation d'une note du côté de Fitch, qui attribue la note la plus basse à la France. Côté Moody's, il y a un risque un peu plus élevé de dégradation. Malgré tout, on peut espérer limiter les dégâts et voir seulement un passage en perspective négative côté Moody's et même peut-être côté Fitch et un maintien de la note pour les deux agences. Donc ça serait véritablement un moindre mal.
Norbert Gaillard répondait à Éric Mauban. Gérald Darmanin, en défenseur du couvre-feu pour les mineurs, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur France 3 Occitanie hier soir. Il a soutenu les maires qui mettent en place des couvre-feux comme Robert Ménard à Béziers.
Emmanuel Macron a adopté un ton grave pour son discours sur l'Europe à la Sorbonne.
Notre Europe peut mourir et ça dépend uniquement de nos choix. Le président a martelé que c'est la question de la guerre et de la paix qui se joue en ce moment sur notre continent. Il a lancé l'idée d'un emprunt européen qui permettrait d'investir dans l'armement. L'idée peut être séduisante, mais pas simple à mettre en application, prévient Hervé Jouan-Jean, l'ancien directeur général du budget à la Commission européenne.
Il faut l'accord de tous les États membres, donc il faut l'unanimité pour lancer cette opération. Ce n'est donc pas une mince affaire. Certains y verront sûrement, dans une proposition française, un intérêt un peu particulier compte tenu des capacités françaises en matière de défense, qui sont à saluer, mais qui pourraient peut-être gêner d'autres. Ce sera certainement très compliqué. Si cette affaire passait, en revanche, ce serait certainement un pas politique majeur sur la voie de l'intégration européenne.
Des propos recueillis par Éric Mauban. Quand on parle d'Europe et d'armement, on pense très vite à l'Ukraine. Pour le chef de l'OTAN, il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte dans la guerre face à la Russie, à une condition que les Occidentaux tiennent leur promesse de fournir davantage d'armes. L'Ukraine qui veut parallèlement renforcer la mobilisation de ses soldats sur le front. L'âge de la mobilisation a été abaissé de 27 à 25 ans. Et l'Ukraine ne délivrera plus de passeports à l'étranger aux hommes âgés de 18 à 60 ans, ceux en âge de combattre. Donc, l'armée ukrainienne manque de réserve, il est urgent de mobiliser à grande échelle. Cette question divise la population, Fabien Albert.
L'objectif est double, inciter les Ukrainiens de l'étranger à rentrer servir et dissuader ceux qui voudraient fuir le pays. Selon l'organisme Eurostat, 650 000 personnes en âge de combattre ont trouvé refuge en Europe, notamment en Pologne, où Varsovie se dit prête à collaborer avec Kiev pour forcer le retour des personnes concernées. Dans les faits, ce sera difficile, analyse Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherche politique de Sciences Po Paris.
Les autorités polonaises risquent de se heurter au manque de volonté de venir rejoindre le combat en Ukraine. Ils peuvent aussi se heurter à des considérations d'expulsion et de mise à risque de l'état de droit. Ils peuvent aussi voir ces différents ressortissants trouver des échappatoires pour essayer de ne pas rejoindre le combat.
Une loi au contour flou qui ne permettra pas de mobiliser à grande échelle, ajoute Adrien Nonjon, chercheur doctorant à l'INALCO.
C'est purement symbolique en fait. Montrer que l'entièreté de la communauté est mobilisée autour de l'effort de guerre.
Un sujet très sensible en Ukraine entre les familles endeuillées, celles un peu plus à l'abri à l'ouest et la diaspora, et un problème politique pour son président.
La question de l'image que veut donner Volodymyr Zelensky, qui est celui d'une Ukraine démocratique, elle ne veut pas passer pour un État autoritaire qui mobiliserait sa jeunesse, elle envoyait se faire tuer pour rien.
L'Ukraine déjà confrontée à un grave problème démographique avant-guerre avec seulement 40 millions d'habitants, plus de trois fois moins que la Russie.
C'est une autre guerre qui mobilise les étudiants américains. Les manifestations se multiplient sur les campus en solidarité avec Gaza. Les étudiants protestent aussi contre le soutien américain à Israël. Est-ce que ces mouvements étudiantins peuvent avoir des conséquences sur l'élection présidentielle? Laurie Kenton est spécialiste des États-Unis. Pour lui, ça peut faire des dégâts pour l'image de Joe Biden.
Là, on pourrait être tout à fait dans quelque chose qui coûte aux démocrates, surtout si l'agitation prend de l'ampleur et dépasse un certain nombre de limites qui, quelle que soit leur légitimité morale ou politique, etc., passent mal auprès d'une opinion. Alors, les Trumpistes voteront Trump et les démocrates voteront Biden de toute façon, mais au milieu, un certain nombre de républicains qui ne sont pas Trumpistes, des gens qui ont voté Nikki Haley, s'ils voient qu'avec les démocrates, c'est le bazar, eh bien, ils seront peut-être plus tentés de se dire « je vais voter républicain, même si c'est Trump », parce que ça suffit.
Lauric Henton avec Diane Berger. Une note française pour finir. La French Touch, la musique électro que le monde entier nous envie. Et un album qui sort aujourd'hui.
J'ai envie de dire doucement les basses.
J'étais sûre que vous alliez encore critiquer,
ah non,
comme
mais
toujours, David.
Moi, j'aime bien.
C'est donc le duo parisien Justice qui sort un nouvel album, Hyper Drama. Le premier single que vous entendez, c'est avec l'Australien Tame Impala.
Ben moi, j'aime bien Justice. Ce sont les petits neveux de Daft Punk.
Exactement.
Oui, hein, c'est comme ça. Et peut-être les arrière-arrière-arrière-petits-fils de Dépêche Mode, j'en sais rien. Merci Virginie, je vous souhaite un bon week-end. Vous revenez lundi, évidemment, on a besoin de vous. Dans 5 minutes, Pascal Perrineau resitue l'intervention d'Emmanuel Macron dans l'histoire politique de l'Europe. Le politologue est l'invité de la matinale. Et comme il est président des anciens de Sciences Po, il nous dira également ce que lui inspire l'intervention des CRS hier à l'Institut d'études politiques de Paris. Avant cela, évidemment, l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro.